Voilà. Donc, on va essayer dans ce topo de comprendre un peu pourquoi le mal existe si Dieu est bon et tout-puissant. Ça fait partie des remarques qui viennent assez vite dans une discussion, ou alors si nous-mêmes on était confrontés à quelque chose qui nous a vraiment blessé profondément, la question revient assez facilement, assez vite. Et pour plonger dans cette problématique, je voudrais avec vous redévelopper des textes que vous connaissez bien, qui sont le livre de la Genèse, les premiers chapitres, en particulier le chapitre 3. Et avant le chapitre 3, vous aurez noté qu'il y a le chapitre 2, dans lequel on décrit en fait Dieu qui crée le monde, et qui crée le monde comme quelque chose de fondamentalement bon. Et il place au milieu de cette création l'homme pour en être le gardien. Il lui présente toutes les créatures, et les deux arbres qui sont au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et puis l'arbre de vie, en lui précisant qu'il ne doit pas manger l'arbre qui est au milieu du jardin. C'est intéressant parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, Adam et Ève n'ont pas encore péché, vous voyez. Et bien déjà, ils savent qu'il y a une chose qu'il ne faut pas faire, quelque chose qui est mal, en fait. Tout ça pour dire quoi? C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de pécher pour être libre. Voilà. Ils savent déjà ce que c'est que le bien, ils savent déjà ce que c'est que le mal. Ils savent ce que Dieu permet, ce que Dieu ne permet pas. Et ils accueillent ça avec confiance, en fait. Et donc, contrairement à ce qu'on pense souvent, l'homme a bel et bien le choix, même dans un monde où le mal n'a pas encore été commis. Mais les Hébreux qui ont écrit donc la Bible ne sont pas naïfs, et ils voient bien qu'autour d'eux, c'est plus tout à fait le paradis originel. Quelque chose est donc venu dérégler l'ordre initial que Dieu avait voulu pour le monde. Quelque chose est venu gripper la machine. Et c'est ce que présente la suite du récit, le chapitre 3. Dans cet épisode plus que fameux d'Adam et Ève tentés par le serpent. Ce que ce récit nous raconte, en fait, c'est que le serpent vient tenter la femme en pervertissant la parole de Dieu. Au tout début du chapitre, Dieu dit « Vous pourrez manger de tous les arbres, mais l'arbre qui est au milieu du jardin, lui, vous n'en mangerez pas. » Et le serpent, quand il vient, qu'est-ce qu'il raconte? Il dit « Alors Dieu a dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin. » Mais déjà, comment il vient fausser le rapport à Dieu? Et lorsque Ève essaye de répondre, en fait, elle finit par rentrer dans cette vue sur le monde et elle va en venir alors à désirer ce fruit parce qu'il donne, dit la Genèse, chapitre 3, verset 5, il donne la connaissance du bien et du mal. Elle le désire parce qu'il donne la connaissance du bien et du mal, mais on l'a dit, en fait, elle avait déjà cette connaissance. Donc en fait, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a voulu saisir par elle-même ce qui lui était déjà donné, en fait, par Dieu. Gratuitement. Alors, juste pour déminer un peu des débats qui, je pense, inutiles, le but de ces textes, vous voyez, c'est donc pas d'accabler la femme elle-même. C'est de réfléchir, par contre, au processus du péché, qui est le modèle de tous nos péchés personnels. Voilà. Et puis, je sais que ça traîne un peu de temps en temps, donc je pourrais aussi affirmer avec force que non, ce péché originel n'est pas la relation sexuelle. Voilà. S'il faut encore déminer ce genre de remarques qui ne correspondent absolument pas au texte. Bref, la leçon qui se cache donc derrière cette histoire, c'est que notre péché, il repose toujours sur une falsification de notre vision de Dieu ou du monde. Probablement qu'on peut d'ailleurs tous se rappeler d'un moment dans notre vie où on a eu envie de commettre une action qu'on savait mauvaise, mais on a quand même trouvé une bonne raison pour se dire « ça vaut le coup d'y aller ». Vous voyez, on a faussé. Fausser l'ordre des bonnes raisons pour faire ce qu'on savait être mal. Mais le texte de la Genèse, lui, va faire encore un pas de plus. Parce que, vous savez, après le péché, qu'est-ce que l'homme fait? Il n'attend pas passivement dans le jardin, il va se cacher. Il se cache de Dieu. Dieu est obligé de le chercher. Et il va le chercher. Et donc la Bible, on peut la lire sous cet angle-là tout le long. Non pas comme l'histoire de l'homme qui cherche Dieu, mais comme l'histoire de Dieu qui cherche l'homme. L'homme qui s'est coupé de Dieu, qui se cache de Dieu parce qu'il a honte de son péché, parce qu'il a peur du coup de Dieu dans cette relation qui a été faussée, il se cache et Dieu part à sa recherche. Mais, recherche pas évidente, parce que l'homme, il faut le reconnaître, a du mal à reconnaître sa faute. Et d'ailleurs, c'est la suite du récit, quand Dieu dit à la femme, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, c'est pas moi, c'est mon mari. Le mari dit, c'est pas moi, c'est le serpent. Et puis le serpent, il parle pas. Donc il n'y a personne sur qui se décharger. Mais n'empêche que tout le monde rejette la faute sur tout le monde. Et on voit comment le péché, au départ, d'une personne, rejaillit sur d'autres et provoque d'autres péchés enchaîne et dérègle toutes les relations. La relation à Dieu est déréglée, la relation à l'autre est déréglée, la relation à la création devient déréglée. C'est comme une tache d'huile, en fait. C'est comme une tache d'huile, ça fausse toutes les relations, parce que toutes les relations sont liées. Et ça, c'est un des leitmotiv du pape François dans son encyclique Laudato Si. Tout est lié, en fait. Voilà. Quand quelque chose commence à foirer, il y a des réactions en chaîne, en fait, qui vont assez loin. Voilà donc ce péché originel, et je voudrais ouvrir une parenthèse là-dessus, parce que ce péché d'Adam et Ève, s'il est qualifié de péché originel, c'est parce qu'il est à l'origine des autres péchés en deux sens. Le premier sens, c'est que c'est le premier. Okay. Alors, je vous l'accorde, je ne sais pas si un jour, il y a vraiment eu un monsieur Adam, madame Ève, qui ont gambadé tout nu dans le jardin du paradis et qui ont mangé une pomme. Ça, j'en sais rien. Par contre, ce que je constate actuellement, c'est qu'il y a du péché dans le monde. Voilà. Donc, il y a forcément eu un premier. Voilà. Donc, il y a un péché originel qui était le premier. Le second sens du mot originel dans le péché originel, c'est que ce péché, il est originel parce qu'il est aussi l'archétype, le modèle de tous les péchés. Tous nos péchés lui ressemblent dans la façon dont nous les commettons. Ils ont tous pour fondement, pour racine, un manque de confiance en Dieu ou une compréhension déformée de Dieu. Ils conduisent à une rupture de la relation avec Dieu qui nous pousse à nous cacher, à fuir loin de Dieu, à fuir de plus en plus, en fait, la relation. Et il faut que Dieu lui vienne réamorcer cette relation pour pouvoir repartir de l'avant. En termes théologiques, en fait, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est ce qu'on appelle la grâce. L'aide de Dieu est toujours première par rapport à nos actions. On a besoin de la grâce de Dieu, de l'amour gratuit de Dieu pour pouvoir sortir du péché. Bref, on va refaire cette petite parenthèse autour du péché originel en tant que tel, en retenant que la Bible nous montre qu'après la chute, l'homme n'a pas été abandonné par Dieu. Au contraire, Dieu va le chercher. Et même, du coup, Dieu annonce de façon mystérieuse la victoire sur le mal et le relèvement de la chute. Dernier point qui me paraît important dans ce récit de la Genèse, c'est que l'homme pêche, c'est vrai, mais il pêche poussé par une force extérieure. Ce n'est pas lui le péché originel, c'est pas lui la source du mal dans le monde, voyez. C'est pas parce qu'on supprimera tous les hommes que le mal cessera d'exister. Voilà. Même si derrière la planète, même si je sais pas quoi, etc. Ce n'est pas l'homme qui est la source, l'origine du mal. Il existe un principe extérieur qui cherche à le détourner de la relation simple et confiante à Dieu. Et chaque fois qu'on cède à cette voie, chaque fois qu'on commet le mal, on s'abîme et on abîme l'environnement, au sens de ce qui nous entoure. Voilà. Et donc le péché, il comporte toujours une dimension de blessure. Voilà. Il nous blesse toujours, avec toutes les conséquences que ça a. C'est qu'une blessure, ça met du temps à cicatriser, c'est qu'une blessure, ben en fait, ça nous affaiblit, etc., etc. Et puis, non seulement il s'abîme lui-même, il abîme son environnement, mais il abîme, ce faisant, aussi l'image de Dieu qui est en lui. Puisqu'il se blesse, il déforme l'image de Dieu qu'il porte, il déforme l'image que porte la création, en les rendant en fait moins ressemblants avec l'original. C'est comme si je mets une grande balafre dans le tableau qui est là-bas, il va moins ressembler à Sainte-Thérèse qu'au départ. Voilà. Et c'est ainsi que, en fait, petit à petit, on peut perdre de vue la vraie image, la belle image de Dieu, et on peut perdre de vue le sens du bien, petit à petit. On sait d'ailleurs que c'est possible, qu'on peut dégringoler comme ça, en commençant par exemple par voler un pain au chocolat, et puis petit à petit, on perd le sens de ce que c'est que le vol, et on finit par voler, je ne sais pas quoi, des voitures. Voilà, donc c'est assez fort parce que qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'existence du mal voile Dieu. Mais comme un voile entre Dieu et nous. Et difficile, c'est vrai, de penser à un Dieu bon quand on voit le mal. C'est difficile de penser à un Dieu parfait, tout puissant. Et donc en fait, c'est difficile de penser à Dieu tel qu'il est. On pourrait même aller jusqu'à dire que, en un sens, le mal atteint Dieu. Et ça sera particulièrement vrai sur la croix, en fait. Le mal va atteindre Dieu d'une façon inimaginable, en fait, inouïe. Et en même temps, ce mal, il nous oblige aussi à revisiter nos conceptions de Dieu. Puisque le mal existe, Dieu ne peut pas être tout puissant au sens où on l'entend assez spontanément, de une capacité absurde et arbitraire de faire tout ce qu'il veut, tout le temps, comme on imaginerait qu'il devrait agir. Voilà, donc le mal qui voile Dieu nous oblige aussi à revisiter nos conceptions sur Dieu. Voilà pour l'approche un peu théologique, un peu biblique, à partir du livre de la Genèse. Mais je voudrais plonger maintenant un peu plus encore dans le problème du mal, toujours de façon théologique, parce que si vous avez un peu suivi là-dessus, on se retrouve quand même devant un problème qui est vertigineux. Comment c'est possible que M. Adam, qui voyait Dieu face à face, lui parlait tous les matins en prenant son café, arrive à un moment donné à lui dire « Ton projet, je n'en veux pas. » C'est quand même fou. Ou plus impressionnant encore, le fameux Satan, ange déchu, qui voyait Dieu avec sa vision angélique, en direct, à un moment il lui dit « Non ». Comment c'est possible ça? C'est fou. Le problème du mal, c'est vertigineux en fait, dans cette radicalité de ce non que l'on pose à Dieu. Comment quelqu'un qui est parfaitement heureux, qui voit Dieu, le comprend parfaitement, etc., arrive à un moment donné à lui dire « Je veux pas de toi, je veux faire le contraire de ce que tu me dis ». Eh bien, devant cette question, il y a eu plusieurs tentatives. Il y a eu deux manières d'essayer d'aborder ce vertige. La première, c'est d'essayer de trouver un sens rationnel à ce mal. Et la deuxième façon, c'est de le considérer simplement comme un mystère, quelque chose sans fond, sans fin. Donc, première chose, soit on peut considérer ce problème du mal comme un problème intellectuel. Si Dieu n'a pas fait la mort et ne prend pas plaisir à la perte des vivants, comme dit le livre de la Sagesse au chapitre 1, verset 13-14, si Dieu n'a pas fait la mort et ne prend pas plaisir à la perte des vivants, alors pourquoi le mal existe-t-il? Et est-ce que Dieu est vraiment tout-puissant? La façon intellectuelle de répondre à ces questions, c'est d'entreprendre ce qu'on appelle une théodicée. Donc théo, T-H-T-O, Dieu, et dicée. C'est une façon de faire rentrer le mal dans le projet de Dieu. Voilà. On essaie de le comprendre comme quelque chose dont Dieu avait besoin, finalement, pour que le monde soit le meilleur des mondes possible, ou qu'il puisse nous permettre de découvrir je ne sais pas quoi sur nous-mêmes, etc. Mais c'est en fait une tentative de rationalisation du mal. On essaie de faire rentrer dans un système pour qu'il ait une place, pour qu'il ait un sens, en fait. Et le mal peut ainsi être compris, donc, comme je vous le disais, comme un moyen nécessaire pour produire un bien, pour que le monde puisse avancer, ou pour qu'un progrès puisse advenir. Et c'est vrai que c'est très tentant. D'ailleurs, peut-être qu'on a tous déjà utilisé dans notre vie cette expression, c'était un mal nécessaire. Il fallait ce mal-là, sinon le bien n'aurait pas pu se faire. Mais ça, c'est pas la vision chrétienne. Ça, c'est pas la vision chrétienne. Une autre façon un peu rationnelle de considérer le mal, c'est de se dire, alors, du coup, oui, c'est vrai que le mal, c'est quelque chose qui nous prive de quelque chose d'autre, de quelque chose de bon. On peut penser le mal comme une privation. Le mal, ça serait simplement une absence de bien. Alors c'est assez satisfaisant, intellectuellement. Ça permet de commencer à comprendre que définir le mal, ça ne va pas être évident, parce que définir une privation, ce n'est jamais facile. Mais je pense qu'on peut aller encore plus loin, justement en acceptant le fait que le mal soit un mystère, quelque chose qui nous échappe. Alors, la question que je vous ai posée au début, comment est-ce qu'on peut dire non, les yeux dans les yeux à Dieu, eh bien ça ne se rationalise pas en fait. On constate que ça existe, mais ça ne rentre pas dans un système, ça ne rentre pas dans quelque chose de logique. Une petite parenthèse là-dessus, c'est que si Jésus est logos, parole de Dieu, il est logique. Si le mal, par définition, est contraire de ce qu'est Dieu, par définition, il est illogique. Donc il ne peut pas rentrer dans un système. On ne peut pas le rationaliser, lui donner un sens. Et puis, le fait de considérer le mal dans une logique, dans un système comme la théodicée, le fait de se dire c'est une privation, etc., nous permet pas de rentrer dans le côté purement absurde du mal. Son côté purement irrationnel. Et on voit bien, en fait, les plus grands mots, on se dit mais ça n'a pas de sens. Et quelqu'un qui vient nous dire mais si, regarde, tu vas trouver du sens, ceci, cela, on lui dit mais t'expérimentes pas ce que je vis, en fait. Le mal n'a pas de sens. Alors, et cette question, elle a même été portée à son paroxysme dans la Bible, dans le livre de Job. C'est là qu'elle atteint son point, son acmé, quoi. Vous le savez peut-être, je vous le redonne rapidement pour ceux qui n'avaient pas bien le livre de Job. Job est victime d'un mal parfaitement gratuit dont il ignore l'origine. Et tout le livre va être ce cri de Job vers Dieu pour lui demander des comptes, en disant « Écoute, moi j'ai rien fait de mal et il m'arrive tout et pire que tout. Je perds tous mes enfants, je perds tous mes biens, je deviens malade, enfin tout le monde se barre. Alors que franchement, j'étais juste, connu, respecté, j'étais sympa, enfin, et t'as pas le droit de me faire ça, enfin, t'as pas de raison de me faire du mal comme ça. » Des amis de Job vont venir de loin, vont essayer de le consoler, de le soutenir, mais eux-mêmes, ils n'arriveront pas à faire mieux que de proposer des explications à son mal. Du type, mais si, regarde bien, tu as du péché, à un moment donné, si tu ne sais pas comment t'as péché, Dieu le sait, t'inquiète pas, etc., etc. Et jusqu'au bout, par contre, Job, lui, va tenir bon, va dire, mais non, moi, je n'ai rien fait. Et à la fin, Dieu va lui répondre. Mais le problème pour nous, c'est que Dieu ne donne aucune explication dans le livre de Job. Il lui dit juste, je suis Dieu, c'est pas toi qui m'as expliqué la vie. Bon. Voilà. C'est une réponse frustrante, hein. C'est une réponse hyper frustrante pour nous. Et on aurait aimé que la Bible, alors qu'elle a posé le problème avec tant d'acuité, nous dise le fin mot de l'histoire, en fait. Mais à ce stade-là, dans l'Ancien Testament, le mal est fondamentalement sans pourquoi. Même pour un croyant tel que celui qui a écrit le livre de Job. Il faut quand même avoir un sacré foi en Dieu pour oser écrire ce livre-là, pour qu'il soit reconnu comme canonique, qu'il soit dans la Bible, etc. Jésus lui-même, en fait, traverse ce non-sens du mal. Même Jésus va traverser ce non-sens du mal lorsqu'il se sent tellement abandonné que Dieu lui semble absent et qu'il crie « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Alors, c'est vrai que c'est un psaume, c'est vrai que probablement peut-être qu'il priait sur la croix, n'empêche qu'il dit, il ne choisit pas un autre texte de psaume, c'est « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et ce que je trouve vertigineux là et fou, c'est que le mal c'est quelque chose en fait si radical, si profond, que même Dieu semble sans réponse. C'est vrai que c'est dérangeant, mais je crois que c'est le signe, si on en arrive là, qu'on prend vraiment au sérieux le problème du mal. C'est le signe qu'on le prend vraiment au sérieux parce que on accepte qu'il soit absurde et on le prend en compte comme tel. Alors seulement, à ce moment-là, je pense, on peut oser une réponse, une fois qu'on a pris le mal au sérieux. Mais du coup, la réponse ne va pas pouvoir être triviale, en fait. Devant l'absurde, on se heurte à quelque chose. D'ailleurs, le catéchisme de l'Église catholique dit en quelques mots, je vous laisserai le numéro parce que c'est un petit peu long, si vous voulez tout noter, mais « Si Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du monde ordonné et bon, prend soin de toutes ses créatures, pourquoi le mal existe-t-il » Ils ont pris ma question. À cette question aussi pressante qu'inévitable, aussi douloureuse que mystérieuse, aucune réponse rapide ne saurait suffire. C'est l'ensemble de la foi chrétienne qui constitue la réponse à cette question. La bonté de la création, le drame du péché, l'amour patient de Dieu qui vient au-devant de l'homme par ses alliances, par l'incarnation rédemptrice de son Fils, par le don de l'Esprit, par le rassemblement de l'Église, par la force des sacrements, par l'appel à une vie bienheureuse. Il n'y a pas un trait du message chrétien qui ne soit pour une part une réponse à la question du mal. Il n'y a pas un trait du message chrétien qui ne soit pour une part une réponse à la question du mal. Vous trouverez ça au numéro 309 du catéchisme de l'Église catholique. En gros, ce que le catéchisme de l'Église catholique vient de vous expliquer là, c'est que si vous voulez une réponse au problème du mal, à ce problème si mystérieux, eh bien, il va falloir suivre toutes les séances du catéchisme. Voilà. Donc forcément, ce soir, vous allez sortir d'ici un peu frustré. Désolé que ce soit juste avant Noël, mais voilà, je n'aurai pas de réponse au problème du mal, pas de réponse simple en tout cas. Mais voilà, simplement pour conclure cette partie-là, trois pistes aussi pour continuer à creuser, entrer davantage dans ce mystère. D'abord, pour reprendre un des thèmes de la dernière fois, on peut remarquer que c'est dans le mystère du mal que la toute-puissance de Dieu est la plus difficile à comprendre. Pourquoi est-ce que Dieu n'efface pas le mal d'un claquement de doigts, hormis le fait que lui n'a pas de doigts? C'est vrai que la Bible nous parle en plus du déluge, où Dieu règne d'un coup toute la surface de la terre, il sauve Noé parce que lui il est gentil, tac, et puis ça va partir d'une bonne base comme ça, ça va être chouette. Mais ce que ce texte, on voit bien, porte la trace d'une attente de l'homme vis-à-vis de Dieu. C'est l'homme qui espère que Dieu soit comme ça. Et ça a une part de légitimité, en fait. Parce que ce qui est beau dans ce texte, c'est qu'on sent bien que le problème du mal, il n'y a que Dieu qui peut le résoudre. Et ça, c'est légitime de le voir comme ça. Il n'y a, devant le mystère du mal, il n'y a que Dieu qui a la réponse radicale, c'est-à-dire qui peut extirper le mal à sa racine. Radix, la racine en latin, radical, c'est la racine. Mais cette attente d'une destruction du mal par un formatage et remise aux paramètres d'usine, vous voyez, ça a une limite importante, parce qu'elle repose sur une conception inadéquate de Dieu. Et c'est là qu'on arrive sur mon deuxième point. Cette conception inadéquate de Dieu, c'est que Dieu ne détruit jamais, en fait. Dieu, il crée, et ce qu'il peut faire, c'est recréer. Mais il ne détruit pas. Ce que le mal défait, lui, il va le rebâtir. Et c'est ce qu'on voit, par exemple, dans la vie de Jésus. Il n'échappe pas à la mort, il la subit vraiment, réellement. Jésus meurt en croix, il ne fait pas semblant, sans que Dieu ne l'empêche. Ça, c'est fou, ça aussi. Par contre, Jésus ressuscite, renaît à une vie nouvelle, la mort n'a pas le dernier mot. C'est ça, la toute-puissance de Dieu. Parce que Jésus a osé faire de sa vie une offrande, y compris dans sa souffrance, il a pu traverser la mort et sauver le monde. Donc vous voyez qu'en fait, la réponse que Dieu donne, ce n'est pas une réponse à notre cerveau. C'est Jésus qui est là et qui vit la souffrance jusqu'au bout, qui la vit avec nous, qui l'a habité et lui a donné du sens. C'est ce qui émerveillait la philosophe Simone Weil, qui disait « L'extrême grandeur du christianisme vient de ce qu'il ne cherche pas un remède surnaturel de la souffrance, mais un usage surnaturel de la souffrance. » Je le redis. L'extrême grandeur du christianisme vient de ce qu'il ne cherche pas un remède surnaturel de la souffrance, mais un usage surnaturel de la souffrance. Jésus était capable d'offrir sa souffrance sur la croix. C'est ça qui sauve le monde. Pas tellement la souffrance, mais l'amour qui permet d'offrir cette souffrance.
Juste une question, du coup, par rapport au déluge, quand Dieu est quand même détruit à ce moment-là.
Alors, c'est ce que nous raconte le récit, et à la fin, Dieu dit « Je ne détruirai plus la terre. » Voilà. Et donc, en fait, ce récit nous fait découvrir que Dieu n'est pas fait pour détruire le monde. Je passe rapidement, en fait, sur le fait que ce récit reste un récit symbolique, sur le plan mythologique. Je ne suis pas sûr que Dieu est vraiment pour la déluge sur l'ensemble de la terre qui a été décrit là-dessus. Mais la conclusion est « Je ne détruirai plus la terre ». Et en fait, il n'a aucune raison de dire ça, en fait. Il le dit vraiment de son plein gré. Voilà. Donc, on touche le cœur de Dieu, là. Enfin, troisième chose sur laquelle je voudrais insister aussi, sur le péché. On peut noter que le péché ne peut être reconnu qu'à la lumière de la foi, en fait. Parce que c'est elle seule qui va comprendre que deux de ces dimensions. Un, la tentation, et deux, le fait que le péché atteint Dieu, touche Dieu. Et ça, c'est un peu un regard de foi, en fait, on ne peut pas le décrypter. Ça reste, du coup, un problème psychologique, ça reste, je ne sais pas quoi, une faute morale, ça reste... mais on n'atteint pas cette dimension du fait que quelqu'un peut nous tenter, quelqu'un de spirituel en particulier, et que, quand on pêche, en fait, ça touche Dieu. Le catéchisme de l'Église catholique, encore lui, nous dit « La réalité du péché, et plus particulièrement du péché des origines, ne s'éclaire qu'à la lumière de la révélation divine. Sans la connaissance qu'elle nous donne de Dieu, on ne peut clairement reconnaître le péché, et on est tenté de l'expliquer uniquement comme un défaut de croissance, comme une faiblesse psychologique, une erreur, la conséquence nécessaire d'une structure sociale inadéquate, etc. C'est seulement dans la connaissance du dessein de Dieu sur l'homme que l'on comprend que le péché est un abus de la liberté que Dieu donne aux personnes créées pour qu'elles puissent l'aimer et s'aimer mutuellement. C'est seulement dans la connaissance du dessein de Dieu sur l'homme qu'on comprend que le péché est un abus de la liberté que Dieu donne aux personnes. Numéro 387 du catéchisme de l'Église catholique. Pour donner une image, pour illustrer ça, ce que dit le texte là, c'est qu'en gros, le péché marche comme une ombre. S'il n'y a pas de soleil pour éclairer, on ne voit pas l'ombre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas rien qui projette l'ombre. Voilà. S'il n'y a pas Dieu, on ne voit pas la portée du mal, on ne voit pas l'ombre qui est le mal. En fait. C'est ce qui fait que aussi les saints, plus ils sont proches de Dieu, plus ils voient leurs imperfections et leurs péchés, parce que c'est éclairé de plus en plus vivement. Et dans une salle d'opération, avec des lumières blanches, machin, on voit la moindre poussière, vous voyez. Moi, dans ma chambre, j'ai de la moquette et une mauvaise lampe, je suis tranquille. Voilà. Voilà pour le péché, ce que je voulais vous en dire ce soir. Et puis, il me reste à aborder la providence. La providence qui vient du fait que, comme on l'a vu la dernière fois, lorsque Dieu crée, il n'abandonne pas sa création à elle-même. Il ne donne pas une pichenette dans la bille et regarde jusqu'où elle va, vous voyez. Il accompagne la croissance de sa création en la maintenant dans l'existence. C'est ça qu'on appelle la providence. Vous pourrez voir le numéro 302, cette fois-ci, du catéchisme de l'Église catholique. La providence, c'est quoi? C'est tous les moyens que Dieu met en œuvre pour permettre à toute chose de vivre et à la création d'atteindre son plein déploiement. Il permet à toute chose de vivre d'un côté individuel, vous voyez, mais il veut aussi que l'ensemble de la création atteigne son plein déploiement. Donc il y a un côté collectif aussi. La providence va jouer un autre rôle aussi. En reprenant le récit de la Genèse, on a vu que Dieu ne laisse pas tomber l'homme qui a péché, qui va lui donner les moyens de retrouver la relation avec lui, de retrouver la communion rompue. Et cette dimension-là de la providence va se manifester du coup plus particulièrement dans les moments où Dieu va d'un mal arriver à faire surgir un bien. Et attention, c'est un peu technique, parce que dire que Dieu fait surgir un bien d'un mal, ça ne veut pas dire que le mal a produit ce bien. Okay, ce n'est pas le mal qui était à l'origine, qui contenait ce bien et qui l'a produit. Ça veut dire que malgré le mal, un bien a été produit. Pour illustrer ça, on peut reprendre le récit de Joseph et de ses frères. C'est la toute fin du livre de la Genèse. Et vous savez, Joseph, dernier fils d'Israël, chouchou, vendu par ses frères en Égypte, devient maître d'Égypte. Et puis, en fait, il devient intendant donc, de tout le royaume. Au moment où, comme par hasard, une famine survient sur l'ensemble du monde connu, sauf que lui avait fait des provisions en Égypte et il se met à ouvrir des greniers pour l'ensemble de la région. Ses frères, qu'il avait vendus et pensaient même qu'il était mort, finissent par arriver en Égypte à faire du grain, en remportent chez eux sans reconnaître leur frère Joseph, et puis, suite tout après toute une série de péripéties, en fait, il va arriver à sauver ses frères grâce au grain qu'il a accumulé, à assurer leur survie et va les faire venir en Égypte. C'est ça qui explique l'arrivée du peuple hébreu en Égypte. Donc Joseph, vendu par ses frères qui projetaient de le tuer, devient par un concours de circonstances intendant de toute l'Égypte, anticipe les famines qui vont arriver, fait des provisions et de ces provisions-là donc va venir le salut pour ses frères qui vont venir se réapprovisionner en Égypte en ignorant que ce qui est arrivé à Joseph. Deux leçons importantes là-dessus. La première, c'est que Dieu conduit le monde, c'est vrai, mais il ne le fait pas seul. S'il a sauvé les 11 frères, c'est au moyen de Joseph. Mais, et c'est la seconde leçon, il l'a fait en respectant la liberté de Joseph. Il n'a pas téléguidé Joseph. Il n'a pas téléguidé les gens qui étaient là. Les événements se sont enchaînés, voilà, conduits par Dieu, c'est vrai, chacun jouant son rôle, chacun jouant librement son rôle. Et ce qui est beau, du coup, c'est que avec Joseph, Dieu a su inventer un nouveau chemin alors que les 11 frères avaient fait un mal et avaient quitté le chemin initialement prévu. C'est ça, tirer un bien d'un mal. Ça ne veut pas dire que c'était bien d'avoir vendu Joseph ou qu'il fallait passer par là pour que les 11 frères soient sauvés. Vous voyez ? Mais malgré ça, Dieu a réussi à produire un bien. Voilà donc deux idées à retenir sur cet enseignement. La première, sur la providence, c'est que, comme je vous le disais, c'est dans le numéro 302, la providence, c'est toutes les dispositions par lesquelles Dieu conduit sa création vers sa perfection. Dieu ne fait pas que nous créer, il est avec nous dans notre vie, il nous accompagne tout au long de notre vie. Il met sur notre chemin tout un tas de moyens pour qu'on parvienne à la sainteté, c'est-à-dire au ciel. C'est ça la providence. Ça va ? Deuxième chose, sur le mal et le péché. Le mal, C'est un mystère vertigineux dont on fait l'expérience. Mais s'il arrive à l'homme de commettre le mal, il n'en est pas l'origine première, l'origine ultime. Ce mal, on peut l'appeler péché parce que, en fait, il porte atteinte à Dieu, il touche Dieu. Mais ça n'empêche pas Dieu de venir sans cesse chercher l'homme pour lui proposer le salut. La providence se fait alors miséricorde, pour prendre un mot qu'on aime bien.